Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Radio Foot International. C'est lundi, oisiveté totale pour la dame Annie, débriefing complet du week-end pour nous, les amis. La Ligue des Nations, d'abord une belle usine à gaz mondiale qui pourrait avoir un certain intérêt en Europe, mais même pas. On a quand même un peu l'impression que tout le monde s'en tape, à commencer cette année par les principaux concernés, joueurs et sélectionneurs. Il faut dire que l'on est en fin de saison, que ces messieurs sont fatigués en toute logique et qu'on leur demande de jouer 4 matchs en 11 ou 12 jours. Il faut dire aussi que l'on est à moins de 6 mois d'une Coupe du Monde qui est dans toutes les têtes, qu'il s'agit donc d'une ultime répète. Et si il y a pour certains un espoir de place à prendre, pour d'autres aucun risque à prendre. Bref, cette Ligue des Nations arrive comme un cheveu sur la soupe, non Marc Libra ?
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, c'est. On aura le temps d'en parler. Ça va être sympa, je pense.
Bien plus passionnante est la course à la CAN 2023, n'est-ce pas, Frédéric Coulard ?
Oui, la Côte d'Ivoire, c'est maintenant ou presque, avec beaucoup de rebondissements et surtout quelques déceptions.
Aura-t-elle lieu en 2023 d'ailleurs ? C'est un autre débat. Pour l'heure, c'est un combat qui sourit aux uns et désespère les autres. Deux matchs pratiquement pour tout le monde et quelques enseignements à tirer. Mali, Algérie, Sénégal, Burkina Faso, voire Mauritanie. Assez bien lancé, la RDC larguée, la Côte d'Ivoire déjà qualifiée, qui découvre Gasset, qui lui découvre l'Afrique. Hervé Penaud, c'est bien résumé ?
Oh, mais qu'est-ce que c'est bien résumé ! Puis alors, quant à votre petite question, un petit peu perfide quand même sur la Coupe d'Afrique en 2023, mais bien sûr qu'elle aura lieu en 2023.
Il faut, en plus en été, ça devrait être à la fête.
Donc pas en janvier 2024.
Absolument.
Je ne crois pas.
Faut pas.
En tout cas, c'est pas ce qu'espère la FIFA.
Pour terminer, retour en club. Et ce qu'espère la FIFA sur le continent, on sait bien qu'en général, ça fait foire. Pour terminer, retour en club avec, enfin dans un club, hein, parmi les plus scrutés, Liverpool. Les Reds ne se sont pas encore officiellement séparés de Sadio Mané. Ça ne saurait tarder parce qu'ils mettent 100 patates d'un coup sur Darwin Núñez. 6 devant, attaquant uruguayen du Benfica de Lisbonne. 23 ans bientôt et un transfert record vers la Mersey. Étonnant ou pas, Sarah Lou Bakouche a collaboré. Maestro Salerno va réaliser, comme d'hab. Pas le temps de niaiser.
Un but partout entre les Gallois et les Belges.
Le raté de Memphis Depay. On en reste à deux partout entre les Pays-Bas et la Pologne.
Les Belges, de leur côté, vont pouvoir ruminer.
Contrat rempli pour l'équipe d'Espagne qui s'impose 2-0.
C'est Angleterre-Italie qui ne rentrera pas dans les annales, hein, clairement.
Luis Enrique, contrat rempli.
Angleterre a du mal contre l'Italie.
Voilà un petit florilège de ce qu'on a pu entendre chez nos confrères ces derniers jours. Ouais, faut reconnaître que pour apporter de l'eau, non pas à mon moulin, mais contre mon moulin, la soirée de samedi n'est pas désagréable à suivre chez nos confrères de la chaîne L'Équipe. Mais il y a cette stat, après 3 journées, c'est ce qu'écrivait Vincent Duluc, notre confrère de L'Équipe, votre ami, Hervé Penaud, les 5 cadors européens, France, Belgique, Espagne, Angleterre, Allemagne, 2 victoires sur les 15 premiers matchs. Vous avez écouté mon préambule, tous les trois. On va attaquer par Marc, parce que c'est le premier que j'ai introduit, Marc Libra.
Et surtout le seul qui a joué au foot parmi nous. À un très haut niveau, presque.
Un très bon niveau.
Je
déjà.
Pense qu'Hervé, tu aurais été un bon international.
On a tous joué
Freddy, je pense que vous pourriez faire illusion. Hervé, nettement moins, quant à moi. Bon, mon passé de gardien de
but. Oh, si, si.
Quand même. Bon, revenons donc à nos moulins et à cette Ligue des Nations. Bon, vous m'avez donc entendu. J'ai tort, j'ai raison. Qu'est-ce qu'on en dit ? Qu'est-ce qu'on en pense de cette Ligue des Nations, Marc Libra ?
Qu'est-ce qu'on en pense ? Simplement qu'aujourd'hui, si la plupart des joueurs stars sont d'accord pour participer à ce genre d'événement, c'est qu'on ne s'en sort plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands joueurs, les joueurs les plus importants devraient dire.
Je pense qu'ils sont consentants. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas le choix.
Ben, c'est pas question qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont capables de faire des putschs. Parce que là, ça rime à rien. Alors, c'est vrai que par rapport à l'équipe de France, Deschamps ne sait même plus quoi faire pour trouver des solutions. Varane qui se pète, Hernandez qui se pète, Mbappé qui fait une accélération. Il a un sa petit souci au genou, donc il ne prend pas de risque. Mais à un moment donné, il faut que les joueurs stars disent « Ok, on n'est pas du bétail. Il faut que ça s'arrête, ce genre de choses. » Et tant qu'eux ne le feront pas, ben les fédérations prendront des sous, la FIFA, tout le monde prendra des sous et on continuera. Parce que là, ce qui leur attend, c'est qu'il y a une reprise de championnat très rapidement qui va arriver. Il y a une Ligue des Champions qui va se pratiquer tous les 3 jours et il y a une Coupe du Monde à préparer. C'est-à-dire c'est complètement dingue. Donc, si on reste dans ce format-là, Je ne sais pas où on va aller, à part de péter. De, quand je dis péter, c'est blesser des joueurs.
Quand, quand on en parlait en préambule, déjà, en temps normal, ça n'a passionne pas les foules. En général, il faut attendre la finale à 4 pour qu'on s'y intéresse un peu. Ça a été le cas pour l'équipe de France quand elle s'est retrouvée avec l'Italie et la Belgique. Et encore, on n'était pas dupes. Là, franchement, cette édition-là, avec 4 matchs en 11 jours, Hervé, alors, est-ce qu'on s'inquiète? Non, le constat, est-ce qu'on vibre?
Le constat sera le même hein, que Marc. Ça paraît invraisemblable de jouer 4 matchs en 11 jours. C'est absurde.
À ce moment-là, de l'année.
Absolument. En revanche, quant à l'intérêt des matchs, ben je suis assez un petit peu moins d'accord. Parce que contrairement à des matchs amicaux qu'on pourrait avoir en juin, ben j'ai trouvé que les matchs étaient plutôt d'un niveau assez intéressant. Et on a senti qu'il y avait une vraie passion autour de ces matchs-là. Des équipes qui cherchaient désespérément à remporter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de retournements de situation dans les dernières minutes, ce qui prouve que les équipes ne lâchent pas, ce qui n'est pas le cas dans les matchs amicaux. Là, c'est un peu plus gentil-gentil. Vous avez un public qui est complètement derrière. À peu près partout, quand je regarde des matchs, c'est plein.
Qui s'est fermé.
Donc, oui, c'est vrai qu'il y a une belle ambiance.
Il y a vraiment une passion, une volonté. Et on voit bien que les équipes veulent gagner, même l'équipe de France. Qui ne peut pas aligner ses meilleurs joueurs. On a bien vu le nombre de blessés qu'il peut y avoir. Mais vous voyez que chaque fois, elle y va quand même. Elle va au turbin, elle va au combat, elle essaye de revenir. Les Autrichiens ont fait le maximum, les Danois ont fait le maximum, les Croates de la même manière, pourtant avec des joueurs aussi un peu fatigués pour certains. Bah, Modric a 36 ans, il ne peut pas faire non plus tous les matchs 90 minutes. Donc vous êtes confronté à une réalité qui est une compétition qui finalement a trouvé un petit peu ses lettres de noblesse, entre guillemets. Et puis à un côté, aujourd'hui, les joueurs sont cramés bouillis et c'est très très compliqué de pouvoir assumer 4 matchs en 11 jours.
Freddy, comme on l'a dit aussi, il y a une Coupe du Monde dans 4 ou 5 mois. Ouais. Et ça, vous ne pouvez pas empêcher ces joueurs-là. Pour rebondir aussi sur ce que disait Marc, vous savez que vous allez avoir des vacances, là, ils les attendent tous avec impatience. Et
qui vont être très courtes.
Ils vont avoir 6, 8, 9 mois de déglingo. Ça joue le fait aussi que la Coupe du Monde soit là.
Bah oui, je pense que la grosse inquiétude, c'est surtout ce qui va venir après. Et d'un point de vue psychologique, il me semble avoir vu certains joueurs, je pense, dans l'anticipation. Ils pensent peut-être à l'après plutôt qu'à ce qui se passe là. Parce que n'oublions pas qu'on est un été où, en théorie, on aurait dû jouer une Coupe du Monde. Et donc là, à ce moment-là, on ne parlerait pas de. Ouais, les joueurs sont fatigués.
Ils seraient en préparation
etc.
à Clairefontaine.
Ils seraient en train de. Peut-être au début de la Coupe du Monde. Je pense que souvent, ça peut débuter en début juin. Donc ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus psychologique qu'autre chose. Mais en dehors de l'inquiétude qu'on a autour des joueurs, il y a surtout l'aspect public. Et comme disait Hervé, il y en a qui aiment ce spectacle-là, surtout ceux qui sont concernés par ces pays-là. Ils n'ont pas vu beaucoup jouer ces équipes-là depuis à peu près une année, deux années, si on enlève l'Euro notamment. Il y en a qui sont contents de voir ces matchs-là. C'est vrai qu'il y en a qui nous laissent un peu dubitatifs et qui sont endormants. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a du spectacle et on est bien content de voir des petites équipes être en train de faire du mal aux grandes équipes. C'est plutôt une bonne chose de voir aussi que c'est une sorte de répétition générale pour certaines équipes. Et puis, comme disait Deschamps un tout petit peu, le plus important est ailleurs. Je pense que là, dans la difficulté, Hugo Lloris aussi l'a dit sur la chaîne L'Équipe, c'est à ce moment-là que l'on voit à des moments défaillants ou des moments de difficulté, comment est-ce qu'on peut anticiper pour une éventuelle Coupe du Monde et ce qui va
arriver. Et vous êtes obligé d'avoir des rassemblements au mois de juin. Parce qu'imaginez que l'équipe de France va se réunir ensuite en septembre avec deux matchs.
Ce sera terminé
avec une semaine de préparation avant la Coupe du Monde, c'est tout. Donc c'est fini, il n'y aura plus rien. Et ce que disait Freddy n'est pas faux. C'est-à-dire que si la Coupe du Monde avait eu lieu cette année au mois de juin, imaginons que ce soit ailleurs qu'au Qatar, il y aurait eu des matchs. Ouais. Et ce ne sont pas 4 matchs qu'ils auraient fait. L'équipe qui va gagner, c'est 7, plus 2, 3 matchs de préparation
cette année. Oui, mais ils n'auraient pas eu en tête la Coupe du Monde 6 mois plus tard. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une compétition quand même en juin.
Et voilà, ça change tout.
Je serais curieux de voir les audiences télé pour voir si ça marche.
Parce que nous, chez nous, ça marche, on voit
de l'engouement. Dans les stades, on a vu en Pologne notamment, aux Pays-Bas.
Nous, je sais pas sur
mais c'est gratuit. Mais Hervé, t'es gratuit. Ouais. Autrement, il faut payer pour voir.
Mais honnêtement, je termine. Ouais. Vous voyez vous de l'engouement dans les rues, dans les bars parisiens, des gens qui viennent regarder les matchs de l'équipe de France. Moi, j'ai pas l'impression que ça fasse vibrer grand monde.
Si vous passez
quand même
votre temps dans les bars, c'est une chose. Mais moi, si vous voulez,
oui,
je passe pas mon temps dans les bars.
Je regarde
tranquillement.
Après, c'est le format de la compétition. Ce n'est pas une compétition ultra populaire. Ça ressemble à une compétition un peu sélecte qu'on regarde à la télévision.
Elle ne comprend pas grand-chose, nous si, mais les gens qui la regardent, pas vraiment.
Sans aucun doute.
Ça la comprend, les gens qui regardent sont pas
non, mais après, l'histoire des relégations d'un groupe à un autre, les ligas, les...
Pour l'instant, la France, elle est relégable, donc ça
une relégation.
Vous sortez dans la rue, vous demandez aux gens de vous expliquer, Hervé, il y en a 9 sur 10, ils sont incapables. Incapables.
Oh, mais c'est parce qu'ils ne suivent pas nécessairement.
Vous êtes d'une intelligence suprême, chacun le sait.
Et avoir 4 équipes dans un groupe et expliquer que le dernier peut descendre, c'est pas très compliqué.
Pour l'instant, la France,
tous les matchs qu'il y a, je suis pas sûr que les gens.
Comme elle a été présentée, C'est très compliqué. Ouais. Après, sur l'euphorie dont vous parlez, oui, il y a l'euphorie parce qu'ils veulent voir Benzema, ils veulent voir Mbappé par rapport à la France et qu'on sort d'un an ou deux ans difficiles. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, ah non, mais si la Coupe du Monde se joue là, c'est pareil. Non, là, c'est pas pareil. Là, au mois d'août, ils vont attaquer. Les grandes d'Europe, il faut qu'ils gagnent tous les matchs, il faut, gagner, il faut se qualifier
elle
pour la phase.
Elle semble en décalage, c'est, cette compétition, cette année. Ouais. C'est mais ça c'est, qu'on
mais c'est complètement c'est ubuesque. Les mecs vont exploser.
Oui,
on va perdre beaucoup de joueurs.
Non,
comment
ils étaient bien obligés de jouer en
non, mais,
juin. C'est
non, mais en juin, Hervé, ça, évidemment. Hervé mais tu les joues en juin, il n'y a pas de problème. Par contre, après, tu peux te faire 6 à 7 semaines de repos. Là, tu ne les auras pas, tes 6 semaines de repos, parce que tu vas rattaquer ton championnat.
6 semaines de repos.
Tu as toujours
3-4 semaines.
Entre 4 et 6 semaines.
4 semaines. Mais c'est aux gros clubs. Les gros clubs, ils ont des effectifs pléthorique. Donc c'est à eux de laisser.
Oui, mais Benzema il va jouer titulaire, Mbappé va jouer titulaire.
Alors justement,
tous ces joueurs-là dont on parle en France, ils sont tous titulaires en club. Et tu diras pas, Mbappé... je vais les faire jouer en septembre-octobre.
Alors mais... justement, ah bah on avance sur ces joueurs que vous avez cités. Il y en a dans toutes les équipes. On pourrait parler de Ronaldo au Portugal, les uns les autres. Gareth Southgate, l'entraîneur, le sélectionneur des Anglais, s'est exprimé justement sur ces matchs et sur la dépendance finalement de certains joueurs qui sont importants, mais qui pensent aussi à ce qui se passera dans quelques mois.
On est très dépendant d'Harry Kane et de Raheem Sterling pour marquer. C'est un problème, mais toutes les grandes équipes s'appuient sur leurs meilleurs joueurs. Vendredi soir, la France était morte et enterrée, et c'est Kylian Mbappé qui a débloqué la situation. Au final, la qualité de vos meilleurs joueurs joue un rôle très important dans votre réussite. Nous avons la chance d'avoir de très bons éléments. Le nombre de buts inscrits par notre capitaine est délirant, mais on doit répartir cette charge. Il y a des joueurs qui marquent souvent avec leur club et qui doivent en faire de même avec la sélection. On doit continuer à travailler pour qu'ils réussissent.
Alors, Gareth Southgate, il est avec l'Angleterre dans un groupe plutôt relevé. Italie, Hongrie, Allemagne... Angleterre, donc, où tout le monde a fait match nul avec tout le monde. Quasiment pas de succès, à part l'Italie qui a battu la Hongrie 2-1, et ce qui lui permet d'être devant. Mais les quatre équipes se tiennent en 3 points. On a vu un petit peu tout et n'importe quoi dans ce groupe particulièrement, mais dans les autres, parce que finalement, le groupe de la France est peut-être sur le papier le moins relevé. On rappelle que dans le groupe 4, Pays-Bas, Belgique, Pologne, Pays de Galles, là aussi, on a eu des résultats, des nuls. On a vu les Pays-Bas gagner 4-0, 4-1 contre la Belgique. Ouais. Les Belges derrière allaient mettre 6-1 à la Pologne et puis après faire match nul. C'est vrai que ça ressemble un peu à n'importe quoi. Et ça va dans le sens de cette année, une compétition qui est mal placée.
Pour une raison bien simple, c'est que les grosses équipes ont des joueurs qui ont joué des championnats difficiles, parfois sont allés très loin en Ligue des Champions.
Et il y en a qui
ont
joué beaucoup de matchs.
Et ça fait qu'il y
en a qui ont joué 60 à peu près. 62,
je crois. Mais, donc ils ont tellement accumulé de matchs qu'au bout d'un moment, la fatigue est là. Pour certaines équipes qui ont moins de joueurs qui sont dans ce type de compétition, évidemment qu'il y a une fatigue qui est un peu moindre et donc ça nivelle les valeurs. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas demander à des sélections de ne pas avoir de matchs en juin. Ça, c'est impossible. Moi, c'est le nombre de matchs qui me paraît incroyable. Les Africains, ils devaient avoir 4 matchs au départ, hein, faut pas l'oublier non plus. Et finalement, ils ont réduit. Ils ont réduit, mais eux, pour essayer de trouver des matchs amicaux. Certains n'ont pas trouvé de matchs amicaux, mais d'autres, le Maroc, sont pareils.
Est-ce que certains sélectionneurs n'ont pas pris ces matchs-là pour des matchs amicaux, justement? On a vu énormément de rotations dans l'équipe de France.
Non, mais c'est lié à des blessures, lié à des fatigues. Il ne faut pas oublier, après, des matchs tous les 3 jours.
Peut-être au dernier test avant la Coupe du Monde.
Et c'est ça.
C'est ce que je disais en préambule. Certains ont une carte à jouer.
Bien sûr, mais pour les joueurs, mettez-vous à la place des joueurs.
C'est la dernière. C'est pas en septembre. Sélectionnés. C'est là maintenant qu'ils dérouillent leur place.
Deschamps nous a expliqué avant le rassemblement qu'il allait avoir un turnover important. Donc déjà, dans sa préparation, il sait qu'il va faire tourner quoi qu'il arrive. Et on le voit lors du deuxième match, il change 8 joueurs.
Mais c'est
dans
vrai.
Le gardien. Mais aujourd'hui, si on rentre vraiment dans l'état...
C'est vrai pour beaucoup de sélections.
Oui, mais si on rentre par rapport à la France et dans le jeu que pratique la France, moi, je suis plutôt très inquiet parce qu'on ne voit rien. Et on nage à 3 derrière, à 4, 3, 5.
Mais ça, on y reviendra dans l'émission de demain, mardi.
Je reviens demain, alors.
Parlons, voilà, je reviens avec Eric Mamrut qui sera là et qui ne manquera pas de revenir. Avec peut-être Antoine Grenier qui est l'homme chez nous, vous le savez, de l'équipe de France. Bref, l'équipe de France fait partie de ces gros dont on dit que voilà, sur cette compétition, ils ont déjà la tête ailleurs.
Moi, je ne crois pas que ce soit ça à 100%. Regardez Kylian Mbappé. On voit bien que quand il rentre, son but absolu, c'est de marquer des buts.
Surtout qu'il entre en étant un peu blessé.
Voilà, il entre un peu blessé, il marque un but, il a failli marquer un deuxième but. Karim Benzema. Non, mais prenons un exemple.
Deux joueurs plus compliqués.
Mais regardons, pendant les Pays-Bas.
C'est plus compliqué pour Benzema, qu'il est fatigué,
mais il essaye. Et d'ailleurs, il a mis un magnifique but lors du premier match. Et
prenons
Harry Kane.
On a vu Ronaldo.
Mais Memphis Depay, on voit que Memphis Depay, il donne le max. maximum pour son équipe nationale. Oui. Ah, alors c'est vrai qu'il n'a pas eu une saison fulgurante non plus avec Barcelone, mais il n'empêche, on sent que les gros joueurs, ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils peuvent avoir de l'impact sur leurs équipes nationales. Pourquoi ? C'est parce que, qu'on le veuille ou non, ce rassemblement-là, en gros, c'est le dernier. Septembre, ça va être la répétition. Ouais. L'équipe de septembre sera l'équipe de novembre, sauf blessure, sauf si quelqu'un se met à frapper l'entraîneur durant le stage. Mais sinon, il n'y a qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être gratter une petite place. Donc pour les joueurs, c'est un moment clé et important.
Finalement, la sélection qui s'en sort le mieux, on va dire, chez les gros, entre guillemets, c'est l'Espagne, hein, pour le moment, dans un groupe avec le Portugal, la République tchèque et la Suisse.
On parle que de l'Europe,
la Suisse.
On reste sur l'Europe.
Ouais. Reste sur l'Europe. L'Espagne, qui a quand même deux victoires et un nul, bon, mais qui a été tenue en échec par la République tchèque. Enfin, voilà, encore une fois, c'est la disparité des résultats.
Mais l'Euro, c'était comment ? Et comment s'est passé avec l'Euro ? Rappelez-vous, les premiers matchs, c'est pareil, il y a eu plein de surprises. On ne s'attendait pas à voir les Danois à ce niveau-là. République tchèque à ce niveau-là, à un moment, dans le jeu, on sentait que c'était une équipe qui pouvait profiter, montrer quelque chose. Il y a plein d'équipes comme ça qui ont été inattendues. La Suisse, qui imaginait que la Suisse battrait l'équipe de France. Qui imaginait que l'Italie gagnerait cet Euro ? Personne au départ. Et que l'Espagne se révèle de cette manière-là.
C'est impressionnant, l'Italie. T'as vu, ils ne perdaient pas un match. Voilà.
Oui, mais
ils avaient des certitudes avant le...
Mais ils ont gagné peu. Enfin, face au Euro, ils ont gagné peu. Même durant l'Euro, ils ont fait pas mal de tirs au but. Donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui... Quand vous arrivez sur une fin de saison, ce qui ne sera pas le cas de la Coupe du Monde, attention. Mais en tout cas, sur une fin de saison, sur des grosses compètes aujourd'hui, il y a un nivellement des valeurs via la fatigue, les joueurs qui n'en peuvent plus, mentale, la fatigue mentale aussi, qui fait qu'à un moment, il peut y avoir des surprises. Au final, c'est toujours les gros qui gagnent, il ne faut pas rêver.
Oui, on peut regretter pour cette compétition, Freddy, qui n'est pas encore installée, on est d'accord, la Ligue des Nations. On fait jouer 4 des 6 matchs dans une période où, franchement, on sent bien que l'objectif, il est, encore une fois, la Coupe du Monde. Ça aide pas.
Oui, ça aide pas. Après, tu te demandes pourquoi ils auraient pu faire comme en Afrique, décaler un tout petit peu les deux prochains matchs en septembre. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
C'est surtout le format
de la compétition qui veut jouer avant le début d'année. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça, je pense que ça, c'est un peu embarrassant pour certains. Et puis à la fin, ça finit par être bénéfique, notamment pour les jeunes joueurs.
Ça leur fait des matchs intéressants parce que le problème des matchs amicaux pour beaucoup de joueurs, c'est qu'ils en avaient marre, ou alors même des qualifications. Euro, jouer l'Azerbaïdjan, là ils jouent contre gros. Ouais. Donc ça les rassure un petit peu. Ils jouent contre des grosses équipes. Ce qui est d'ailleurs un vrai problème parce que ça empêche pas mal d'équipes, notamment africaines, par exemple, d'avoir des dates contre des pays européens. Parce que maintenant il n'y a plus aucune date. Donc vous pouvez jouer peut-être éventuellement contre les Sud-Américains de temps en temps, des Nord-Américains, on l'a vu avec le Maroc contre les États-Unis. Mais ça réduit le champ des possibles. Et ça c'est un vrai souci aussi.
Mais la Ligue des Nations sur cette période-là par rapport à la Coupe du Monde, elle aurait dû être annulée pour moi. Purement année, et simplement, faire un match ou deux de prépa pour voir des nouvelles têtes, et en septembre, un match ou deux, et là, tu es en phase.
Sauf que c'est le business, là, c'est le business de l'UEFA,
là, c'est le business de l'UEFA, ou les FEDE, ou tout le monde doit gagner de l'argent, et on ne pense, encore une fois, on ne pense pas aux joueurs. Si un joueur, là, on attend les grandes stars à la Coupe du Monde, si deux ou trois joueurs stars se blessent, on fait quoi ? Parce qu'on leur tire dessus depuis quoi ? Mané, depuis quand il joue Mané ? En janvier, il s'est reposé, Mané ? Non, il ne s'est pas reposé, il s'est reposé en février.
Le pire, c'est Mohamed Salah. Et Salah, il a joué 44 matchs
là,
dans le papier depuis janvier.
Il s'est jamais remis.
Il va y aller à la Coupe du Monde, il me semble. Donc, à un moment donné, on ne pense pas aux joueurs, on n'en a rien à faire. C'est du bétail. Pour moi, c'est du bétail.
S'ils font 4 semaines d'arrêt, 4 pour les joueurs. Après, ils reviennent normalement, comme ils font une saison de manière classique.
Ils ne le feront pas à 4 semaines. Tu ne peux pas à 4 semaines d'arrêt. Ça n'existe pas.
Dans l'agenda des quelques joueurs, je pense qu'ils ont 3 semaines et demi, 4 semaines.
Mais il y a beaucoup de joueurs, c'est 3-4 semaines. Et les années précédentes, c'est pareil. C'est souvent 3 semaines, 4 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et puis après, ils reviennent.
Et en 3 semaines, ils prennent des kilos.
Oui, parfois pour certains. Mais
donc le championnat redémarre début août, on est bien d'accord.
Mi-août. Je pense la mi-août.
Début août. 9 août, avant le 10 août. Donc là, on va dire qu'on est le 13, 14. Donc le 15, on est en vacances. Donc, ils reviennent le 15 juillet. Leur club.
Là, 7 ou 14. 7 ou 15. Ça dépendra à ceux qui auront 3 semaines.
Et après, il y a un enchaînement qui est...
Non, mais si on suit le raisonnement d'un mois, il faut pour... Quand tu t'arrêtes un mois avec tes joueurs de foot, il te faut entre 6 et 8 semaines pour être au top. Donc, ça t'emmène à fin septembre. Les clubs, ils vont dire « Ah non !» Tu seras bon en fin septembre, mais Mbappé dans 15 jours, il joue. Hein. Tu crois quoi ? Tu vas dire non, mais repasse-moi un mois.
Je pense qu'il n'aura que 15 jours, Mbappé. On en reparlera.
Non, mais il a dit en commentaire qu'il va aller en vacances. Je pense qu'il va aller prendre ses vacances.
Il va vouloir jouer rapidement. Tu verras si le club va laisser un mois de repos ou 3 semaines.
Ils ont besoin qu'il soit frais. Ils ont besoin au Qatar.
Mais il y a la Ligue des Champions qui arrive. Il va jouer tous les 3 jours.
Non, mais le seul but pour les joueurs du Qatar, c'est que vous organisez une Coupe du Monde avec peut-être l'un des meilleurs, si c'est le meilleur joueur du monde, sous vos couleurs, du PSG. Mais ils le veulent en forme. Eux, ils s'en foutent qu'ils soient bons contre Brest lors de la première journée de championnat. À mon avis.
Et Mbappé, il en pense quoi, le patron du PSG ? Le patron du PSG, il en pense quoi? Parce que c'est, la parole est à Mbappé. Mbappé, tu sais que même à Brest ou à Ajaccio, il va vouloir jouer marquer 3-4
points. Toujours, ça, il n'y a pas de doute. Ça, y a pas de doute.
Donc on verra qui va décider quoi.
Allez, voilà pour la Ligue des Nations. Si on allait sur le continent, où là, on a l'impression d'avoir un peu plus de passion en ce début de course à la CAN 2023. On en aurait presque oublié de rouvrir nos micros parce qu'on se laisserait, volontiers entraîner.
J'ai pas tout dansé aussi bien.
Capivobi.
Bravo.
J'ai déjà fait mieux, mais pas dans les mêmes émissions. Capivobi, c'est le titre de cette chanson qui nous vient du Mali.
On aurait bien voulu entendre Mali Puissance à la fin. Ça, on peut dire.
Vous connaissiez ça, vous?
Ouais, non, mais ça, je les écoute un peu et ils ont une formidable équipe, les Maliens.
Et bah, c'est pour ça qu'on va en parler en premier. Ne prenez pas ombrage, vous qui nous écoutez. On a fait comme ça un petit ordre en fonction des résultats. On a essayé d'aller là où c'est le plus intéressant. Le Mali mérite, parce que, comme d'autres équipes, le Mali, on l'a dit tout à l'heure, a plutôt bien démarré avec Eric Schell. Ses deux premiers matchs, une victoire 4-0 contre le Congo-Brazzaville, puis 3-1 face au Soudan du Sud, c'est ça, Sud-Soudan. Bon, a priori, plus à leur portée, mais enfin, quand même, il fallait confirmer. C'est jamais facile de rentrer dans ces éliminatoires. Deux matchs, deux victoires, 7 buts marqués, 1 encaissé, un nouveau sélectionneur qui rentre plutôt bien dans le costume.
Alors, ce qui est important déjà, c'est qu'ils aient marqué autant de buts, puisqu'on savait que c'était leur gros défaut, c'était de ne pas marquer de buts.
Je rappelle que le Mali est une équipe dont on connaît tous ici le potentiel et qu'on a envie d'aimer, d'adorer et de suivre. Et puis, elle nous a laissé sur notre fin à la CAN, éliminée en huitième de finale.
Avec chaque fois des arbitrages qui n'ont pas été favorables.
Oui, enfin bon,
pour le moins qu'on puisse dire, notamment contre la Tunisie.
Parce que et puis après, il y a eu un arbitrage.
Le barrage de la Coupe du Monde.
Oui.
C'était horrible.
Je parlais du barrage de la Coupe du Monde.
Hein. Terminé.
Donc une équipe qui avait des grosses difficultés pour marquer. Alors même si, je répète, des erreurs d'arbitrage, notamment un but qui est refusé, on ne sait toujours pas pourquoi, en Tunisie. Mais cette équipe du Mali, il y a un potentiel incroyable. Et là, on se dit, tiens, enfin, peut-être, on va avoir quelque chose de ce potentiel-là. Alors, il faut bien regarder que contre le Sud-Soudan, par exemple, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il y a 3-1, effectivement, mais c'est deux buts marqués à la 93e, 95e minute, alors qu'ils sont à 10 contre 11, puisque Ibrahima Koné est expulsé avant. Donc, ça a été déjà la preuve qu'ils ont pu s'arracher pour faire plus. Camara, qui se met à marquer des buts sous le maillot malien, il n'en marquait jamais avant.
Formidable,
voilà, c'est vraiment très, très bien. Alors, on attend maintenant d'en savoir plus et de voir plus. C'est Koukou Koïta qui revient après une longue blessure. On attend aussi beaucoup de lui dans l'attaque du Mali. Donc franchement, c'est Kouchel pour l'instant. Bah, c'est un sans faute, hein, ce qu'il a réussi à faire. Et on attend la suite avec impatience, parce que c'est vraiment une équipe qui est très excitante. Il y a du potentiel, il y a de la qualité. Là, il a décidé d'avoir un système de jeu, visiblement, avec un losange en milieu, ce qui n'est pas simple à maîtriser. Donc on va en savoir plus au fil du temps.
Surtout une meilleure version de Sama Sekou et Bissouma, qui est super bon au milieu.
Freddy, on attendait de voir ce qu'allait donner cette équipe après ces deux coups de massue. Eux aussi se voyaient plus beaux à la CAN. Eux aussi se sont presque vus et ça aurait été historique. Et qu'est-ce qu'on aurait aimé, nous, à titre personnel, voir le Mali à la Coupe du Monde. Arrive ce nouvel entraîneur, on va dire que tout le monde ne connaît pas. Je vais le dire comme ça.
Hein, un peu forcing, parce qu'à la base, il y avait eu un petit couac sur le casting. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait été choisi avant. Il y a eu une petite grogne. Et ensuite, derrière, ils ont dû.
Parce que lui ne voulait pas être adjoint de Schaeffer, qui était l'ancien coach du Cameroun, qui avait été champion d'Afrique des Nations en 2002. Il n'était pas question qu'il soit son adjoint. Et tout le monde, après, a rebattu les cartes. Ils ont dit non, on va finalement le prendre directement, mais pas comme un adjoint. De toute façon, on lui avait refusé. Et pour être numéro 1. Et donc, c'est très, très bien de donner sa chance à un ancien international malien. Alors, c'est un international, il n'a pas non plus 50 000 sélections, il doit y avoir 6. Ce n'est pas non plus un pilier de l'équipe de Seydou Keïta, de Tchila Diarra, de tous ces joueurs-là.
En tant qu'entraîneur, je pense qu'il a de belles idées. Surtout, il est jeune, il est un peu dans la lignée de ce que font les autres entraîneurs africains. Je pense notamment à Aliou Cissé et surtout Belmadi. Ce qui est certain, c'est qu'il a aussi quelque chose de fondamental avec l'équipe malienne. Ils ont commencé à construire ça juste après la CAN, d'ailleurs, où ils ont ramené quelques anciens internationaux autour de l'équipe. équipe, ils ont formé une sorte d'union, union sacrée autour. Et je pense que Eric Schell, il fait un peu le pont avec ses internationaux. C'est vrai que si tu avais ramené Schaefer, ça aurait été beaucoup plus compliqué de laisser de la place aux anciens internationaux pour venir mobiliser les jeunes. Et ils servent d'exemple, ces anciens internationaux-là, c'est Edu Keita.
Il n'y avait aucun intérêt à prendre un entraîneur qui est complètement déconnecté aujourd'hui des réalités du foot africain. Ça n'a aucun sens.
Prenons des locaux.
Non, mais c'était même pas une question. Pour moi, vous savez,
on n'est pas africains, pas... des gens du continent. Non,
mais cette équipe du Mali avait besoin de quelqu'un qui a des idées.
C'est tout.
Qui fait jouer cette
équipe.
Ils avaient eu Giresse. C'était beaucoup plus compliqué avec Giresse. C'est vrai qu'il avait des idées modernes. Il a fait progresser cette équipe quand même.
Il a fait progresser l'équipe, Giresse.
Après, derrière, tu as eu Magasuba qui était un local et vraiment un produit pur local, évidemment, quand tu parles de locaux. Magasuba qui connaissait très bien, qui a d'ailleurs la plupart de ces joueurs-là font partie de son programme de formation, sa DTN notamment. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu avais besoin des idées fraîches. Et quand tu as vu cette équipe jouer, il y avait beaucoup de verticalité. Lui en losange, il marche quasiment à merveille avec, encore une fois, je l'ai dit, la meilleure version de Bissouma sur les deux, trois dernières années. Et c'est bien que cette équipe-là, qu'on commence à marquer des buts, avec, on a dit, on a parlé de Camara, Mohamed Camara qui marquait presque jamais, qui ne marque pas au club, qui se met à marquer des buts à l'entrée de la surface, c'est formidable. Et le public, on n'en a pas beaucoup parlé, le public était de retour au stade et c'était formidable.
Mais il y a une telle attente autour de cette équipe.
Marc, moi, je ne suis pas aussi précis que mes camarades, mais je vais constater une chose qui était très intéressante, c'est que beaucoup de joueurs qui ont évolué en France, qui ont la double nationalité, comme Eric Schell, que j'ai côtoyé, que j'ai connu, ont été formés en France et n'hésitent pas aujourd'hui à partir entraîner en Afrique. À une époque, on vous disait « Ah non, mais c'est pour 3-4 entraîneurs, c'est tout ». Et on voit Walid Regragui avec une équipe au Maroc, le WAC, il me semble, qui a été champion.
Absolument.
Donc, c'est des joueurs qui sont passés par la formation française, qui ont fait leurs armes dans des clubs, qui n'ont pas eu peur de partir. Il y a quoi, Corentin Martins aussi qui est parti. Il y a, comment il s'appelle, Rabih Sandratana aussi qui est parti. Donc, il y a pas mal d'entraîneurs et de joueurs qui ont joué en France qui, aujourd'hui, n'ont plus peur d'aller en Afrique. Parce qu'on disait « Ah ben non, non mais c'est pour le roi, ah non mais c'est que pour Giresse, ah non mais il n'y a que pour eux ».
Non, mais parce
donc aujourd'hui, la jeune génération, parce que ce sont des entraîneurs qui sont des 70-80, donc c'est des jeunes entraîneurs, et ça amène un supplément d'âme et un plus, et je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, eux, ils n'ont pas peur. Eric, je le connais un petit peu, et j'ai trouvé ça très courageux. Et puis, vous avez vu, ça fonctionne.
Et puis, c'est vrai qu'Hervé, il connaît très bien le système qu'il y avait, notamment dans le lobbying des entraîneurs français, notamment en Afrique. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une version un peu hybride de ces entraîneurs-là, mais qui sont africains, qui ont joué pour la plupart à la sélection, mais qui ont une formation à la française, qui est une formation prisée et reconnue en Afrique, qui finalement, je pense que la voie a été ouverte en premier par Florent Ibenge, qui a fait un formidable travail. J'espère qu'il va peut-être revenir au Congo avec tout ce qu'il y a eu comme désordre avec Cooper.
Et ce qui est certain,
c'est que Ibenga a ouvert la voie, Belmadi a entre-ouvert avec le titre, et puis derrière, on a vu l'UCC. Donne un poids d'avoir ces exemples-là qui gagnent.
C'est certain, ça c'est capital. Mais surtout, il ne faut vraiment pas tomber dans le piège, parce que souvent j'entends ça, et j'ai souvent entendu, j'ai d'ailleurs écrit des papiers là-dessus, pour bien dire attendez, ce n'est pas des entraîneurs locaux tels que vous pouvez l'imaginer.
C'est ça, en fait, c'est pourquoi je disais version hybride.
Ce sont des entraîneurs qui ont joué pour leur sélection nationale, donc ça veut dire qu'ils ont eu
un diplôme de la FFF,
qui connaissent,
qui se sont rendus compte en interne.
Qui ont entraîné ailleurs. Belmadi, c'est l'entraîneur du Qatar. C'est au Qatar qu'il a fait ses armes, c'est là-bas qu'il a appris, plus en une formation française. Aliou Cissé, il a fait sa formation où il a bien fait en France, etc., etc. C'est-à-dire que cette histoire de locaux, non locaux, il y a quelques locaux. Magasuba, c'était un entraîneur local, ça, il n'y a aucun doute. Mais sinon, il y en avait très peu. Ce sont des gens qui sont allés à droite et à gauche. Ce qu'il faut, c'est prendre des compétences. Et si la compétence, elle peut venir effectivement d'un joueur qui a joué pour sa sélection nationale, eh ben, c'est très bien.
Quelqu'un du pays.
Pour une raison bien simple, c'est que dans beaucoup de pays, malheureusement, les championnats sont à tel niveau aujourd'hui que c'est difficile d'aller piocher un entraîneur qui ne connaît pas le très haut niveau. Il faut évidemment des gens qui sont allés ailleurs, qui ont été confrontés à des réalités différentes. Et puis après, vous savez, un entraîneur, c'est une chose, mais c'est un staff. Il faut construire un staff aussi avec des entraîneurs adjoints de qualité, avec des préparateurs physiques de qualité, etc. etc. Par exemple, ce que fait la Guinée a pris Kaba Diawara, qui avait débuté, et puis qui s'est entouré aussi d'autres compétences, et qui fait qu'à un moment, vous pouvez avoir quelque chose de vraiment professionnel.
Donc le Mali, dans ce groupe G, en tête déjà, devant le Congo, Brazza, la Gambie et le Soudan du Sud. Deux défaites en deux matchs pour les Sud-Soudanais. Parlons du groupe I et de la Mauritanie qui est en tête de ce groupe I avec le Gabon dans ce groupe, le Soudan et la République démocratique du Congo. C'est un groupe donc a priori très équilibré. Il l'est d'ailleurs, mais les Mauritaniens, c'est vrai, s'en sont plutôt bien sortis. 3-0 contre le Soudan et puis ensuite ils sont allés chez vous, mon cher Freddy, faire un match nul.
Il a la larme à l'œil.
Non, mais je suis plutôt content pour les Mauritaniens, indépendamment du fait que je sois gabonais et que j'aurais aimé que ce deuxième match-là soit gagné par le Gabon. Mais c'était un contexte.
Il aurait bonifié cet exploit réalisé au RDC.
Mais après,
exploit
ça aurait été
par rapport à la préparation. Parce
à la préparation, à tout ce qu'il y a eu des problèmes extrasportifs, mais ce qui est certain, c'est que du côté gabonais, à la fois, si le Gabon avait gagné, ça aurait été une sorte de miracle dans une préparation qui a été calamiteuse, et ça aurait peut-être conforté, entre guillemets, les dirigeants qui se sont, ouais, qui sont mal comportés autour de l'équipe.
De match,
à la voilà, ça aurait bonifié en tout cas l'incompétence. Mais ce qui est certain, c'est que l'équipe mauritanienne, c'est une équipe, ils nous ont montré un tout petit peu qu'ils étaient en grande progression. Le football mauritanien est en restructuration depuis quelques années. Ils font un travail phénoménal, notamment à la DTN et surtout du point de vue des infrastructures. Et puis le nouvel entraîneur, Abdoul, il a fait un travail psychologique qui est phénoménal. J'ai regardé un peu les séquences d'avant-match et à la mi-temps. Ils ont tout joué sur le mental. Ils savaient qu'ils étaient un tout petit peu inférieurs au Gabon. Ils ont joué groupé, ils ont bien défendu, ils ont fermé les lignes, ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions. Et ça a été en tout cas, je pense, un bel exploit que de ne pas perdre ce match.
Voilà un entraîneur pour le coup qui est très prometteur aussi.
Et donc, qui est un local, entre guillemets.
Ouais. Donc, tout ça, c'est intéressant. Mais là, la base de tout sur la Mauritanie, il ne faut jamais l'oublier. C'est un peu comme au Maroc. Ouais. C'est-à-dire que vous avez des présidents de fédé qui ont une vision pour leur fédération.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a un travail fait en amont qui est énorme, énorme. Et vous savez, ils ont créé tous les championnats, leurs championnats même des jeunes, des
femmes. Et une mobilisation de ressources qui n'est pas facile, etc., pour des pays qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Voilà, ce n'est pas un pays non plus qui roule sur l'or. Hein. Là, on n'est pas au Maroc. Donc, la Mauritanie, ils ont réussi à faire ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut des gens avec des visions. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut développer le football local. Alors, on va pas dire qu'au Gabon, il n'y a pas de vision. Mais si, il faut le dire. C'est-à-dire qu'au Gabon, vous voyez,
il y a un mais on va se mentir, il n'y a pas de vision. Non, là, on a un président de fédération qui est en prison actuellement. C'est un peu comme au Congo. Tu as un président de fédération qui a un peu démissionné, qui a fait semblant de démissionner en mettant quelqu'un, une sorte de piston qu'il continue à manipuler au Mali. Au Gabon, c'est pareil. Tu as un président de fédération complètement boudé par le peuple et surtout boudé par les joueurs. On parlait des joueurs qui ont pris la retraite au Aubameyang. Les autres, ils sont partis parce qu'il y a le bordel autour. Et ce qui est certain, c'est que derrière, la conséquence, c'est que voilà, il y a une sorte d'organisation qui est complètement calamiteuse et ça se ressent un peu sur le terrain malgré la qualité de joueur.
Et à l'arrivée, avec une préparation calamiteuse, des histoires de vol, un sélectionneur qui n'est pas là, 13 joueurs sur 23, vous allez gagner en RDC. Ouais. Ou alors là, bon, bah là, la RDC, on ne sait pas quoi dire. Hector Cooper limogé sur ordre ministériel,
oui,
qui va devoir être remplacé. Bon, le prochain match, c'est en septembre.
En septembre.
Donc il y a un petit peu de marge.
Mais ce pays, sélectionneur de l'équipe locale,
c'est impensable de voir la RDC dans cet état-là, les Léopards, c'est immense pays de football, immense tout court et immense pays de football qui aurait déjà dû organiser je ne sais combien de cannes, en gagner je ne sais combien.
Mais pour moi, c'est l'une des plus grandes déceptions. Quand je pense, quand il y a Milan, même au Rwanda, vous disiez il y a quelque chose, c'est une équipe qui a vraiment quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous aviez le parfait alliage entre des locaux et puis des joueurs jouant à l'extérieur, qui étaient en Europe, et qui pouvaient apporter à la fois leur connaissance du terrain et à la fois la connaissance d'expérience de l'extérieur. Et moi, souvent, arrivé des Cannes, je me disais, la petite équipe sur laquelle je miserais, c'est la RDC. Et malheureusement, c'est un tel désastre en interne. Mais comment voulez-vous que les joueurs comprennent quelque chose à ce qui se passe ? En plus, il y a un niveau individuel qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait espérer, parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources, et malheureusement, un peu comme le pays de manière globale, hein, et pas spécialement en sport, mais de manière économique, j'allais dire, et bien on est dans un pays qui va très, très, très mal. Et le football, pour moi, c'est quasiment un désastre. C'est l'un des footballs les plus désespérants pour moi qui existent en Afrique. Vu le potentiel, je parle.
Ouais,
évidemment. Vu le nombre d'habitants, vous avez l'Afrique Sud, vous avez vu eux. C'est-à-dire que c'est des pays qui devraient avoir 10 fois plus que ça. Il y a un amour du foot absolument incroyable en RDC. Et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui, alors qu'il y a quelques clubs qui ont fonctionné, il ne faut pas l'oublier.
Mais il y a un football de clubs qui fonctionne bien.
TP Mazembe n'est pas le TP Mazembe d'un temps.
Oui, mais ça commence à devenir difficile. Parce que là, en parlant du TP Mazembe, ils appartiennent à un championnat. Et là, fait extraordinaire, ils ont commencé le championnat, c'était magnifique. Moi, j'étais au Congo, d'ailleurs, en septembre, j'étais plutôt proche de Lupopo et de son président et tout ça. Ce qui est certain, c'est que le championnat a bien commencé. Il y avait une convention avec l'État. Et au bout de 2 mois, 3 mois, il paraît que la compagnie aérienne a boudé complètement le championnat parce que le territoire est tellement vaste que l'État s'est engagé à offrir des avions dans les déplacements gratuits aux équipes. Et boum, le championnat s'arrête. Et les clubs comme Mazembe, qui sont censés aller très loin en Coupe d'Afrique, sont coincés d'un point de vue local parce qu'ils ne peuvent pas être compétitifs localement. S'ils ne jouent pas, ils ne peuvent pas être performants malgré le miracle.
Sur le continent.
Donc, ce qui est certain, c'est que derrière l'organisation interne, avec l'absence d'un président de fédération, avec un ministre qui est devenu omniprésent, un peu comme au Gabon, c'est pareil. Hein, quand on fait un peu le parallèle,
c'est lui qui est devenu quasiment
le président de fédération. Il y a eu des problèmes d'argent, de malversations, etc. Donc, un peu trop d'ingérence, qui fait qu'il y a plus de vrais capitaines à bord de ce bateau à RDC. C'est un vrai gâchis. Vous le disiez, parce que moi j'étais en RDC, j'ai vu au kilomètre carré, c'est l'un des pays en Afrique où le football est ultra populaire, avec des clubs où des supporters sont capables de mourir pour leur club.
Ah non, mais c'est absolument c'est phénoménal. Mais rappelons-nous cette compétition des écoles qui avait eu lieu
C'est du lobbying
C'était tellement, ridicule l'équipe qu'ils avaient alignée, ou alors moi qu'ils aient redoublé plusieurs fois chaque classe. Donc à un moment, c'est aller au bout du bout. C'est-à-dire, c'est tout ça qui fait qu'à un moment, ce pays ne fonctionne pas sur le plan sportif. Il va falloir que quelqu'un reprenne la tête de la fédération, remette de l'huile, et puis surtout soit sérieux et avec une vraie vision des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un pays qui peut se relever. Il n'y a aucune raison que la RDC ne se relève pas. Le seul problème aujourd'hui, c'est vraiment en bas. Ils n'ont pas fait la dernière CAN. Une CAN à 24 équipes. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas allés à la dernière CAN. Et ils ont fait illusion sur ce barrage qualificatif contre le Maroc. Un Maroc qui n'était pas non plus exceptionnel.
Encore que là, il y a quelques anciens qui sont revenus. Ils ont fait une sorte de mobilisation générale, Bakambu et le reste, qui ont finalement claqué la porte de la sélection. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'anciens joueurs. Et c'est le problème. Si on compare avec le Maroc et l'Algérie notamment, il y a beaucoup d'anciens qui ne veulent plus revenir parce qu'ils savent que c'est un no man's land.
Ah, mais ça, alors là, Cooper.
Après, il a quand même fait un travail formidable quand il est venu juste après l'élimination en éliminatoire de la Coupe d'Afrique. Il a fait un travail de remobilisation. Il fallait un visage neutre parce qu'avec Ibengué, ça s'était mal passé. Il y avait trop de conflits. Mais il a apporté un petit travail, mais il était dépassé complètement parce que je vous explique, la vérité c'est que c'est super infernal, ça vient de tous les côtés, le gouverneur du Katanga veut placer ses joueurs, le gouverneur de ceci, à Kinshasa on veut plus de représentants de Kin, etc. Donc ça crée une sorte de fourneau, c'est ingérable, et t'as un ministre, encore une fois, qui est ultra omniprésent, qui devient le président de fédération. Quand on parle d'exemple d'ingérence de sport et d'ingérence des politiques dans le football, la RDC est un bel exemple et on peut écrire une thèse dessus.
Quelqu'un d'un peu d'expérience. Et c'est un Gabonais qui le dit, c'est vous dire s'il en connaît.
Parce que je les adore, les Congolais, on est voisins, même si c'est vrai qu'on avait gagné, mais voir une équipe perdre 1-0 contre une équipe du Gabon, dont les joueurs se sont entraînés une fois la semaine, qui ont voyagé, qui sont partis de Paris à 10h, qui sont arrivés à 18h, ils arrivent 2h avant le match, ils avaient 3 gardiens, ils avaient un joueur blessé, ils avaient 2 joueurs disponibles. Tu comprends le gouffre dans lequel ils sont, les Congolais, et ça me fait presque pitié.
Allez, on enchaîne avec le champion d'Afrique quand même. Le champion d'Afrique, 2 matchs, 2 victoires. C'est pas flamboyant, 3-1 contre le Bénin, mais le Bénin, nos amis écureuils, j'ai une pensée pour eux parce qu'on les aime bien, les Béninois.
Et puis avec une expulsion d'Almeida.
Au fond du trou, ont perdu après contre le Mozambique eux. Mais les Sénégalais, eux, 3-1 contre le Bénin, 1-0 petitement contre le Rwanda, mais c'est la marque des champions. Je vous propose d'écouter forcément Sadio Mané, puis on en dit quelques mots après.
Ça a été un match difficile, c'était pas évident. On avait en face de nous une équipe très très compacte défensivement et une équipe agressive. C'est une équipe qui au 136e, ça se voit pas. C'est pourquoi il n'y a plus de petites équipes. Mais bon, on a poussé jusqu'à la fin, on a marqué le but. Je pense que dans l'ensemble, on a fait ce qu'il fallait. Et on avait bien préparé cette équipe durant la semaine. Ce genre de match, il faut s'attendre. Et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Mais au final, on a gagné. Je pense que c'est l'essentiel. Après, moi, j'ai fait ce qu'il faut pour l'équipe.
Il a marqué les 4 buts, non, me semble-t-il, au moins 3. 3 pénaltys.
Il a marqué 3 pénaltys. 3 premiers matchs et le deuxième. Un triplé le premier match et puis un le deuxième match.
Il a marqué les 4 buts des 2 matchs alors.
4 buts, il a
marqué les 4 buts. Les 4 buts de ces 2 matchs, c'est lui, dont 3 sur pénalty. Il est là, vous voyez, il n'y a pas qu'en Ligue des Nations et en Europe.
Il n'a pas beaucoup joué cette saison.
Non, pour ça,
il est fatigué. Lui, il n'est pas fatigué.
Encore dans la lignée des joueurs qui ont montré une certaine fraîcheur, c'est vrai que ça se voyait qu'il était un peu fatigué, mais heureusement, le Sénégal, qu'ils avaient Sadio Mané avec cet état d'esprit conquérant. Heureusement.
Le jour où il n'est pas fatigué, c'est 8.
Parce qu'on rappelle que le Sénégal était censé jouer au Rwanda et que ça s'est fait dans le stade de...
C'est quand même l'avantage.
Ouais, mais c'est surtout que les Rwandais, c'est vrai qu'ils ont beaucoup investi, notamment là, je vois qu'ils sont en train de restructurer aussi un peu la fédération. Ils ont fait un gros travail, notamment sur le cyclisme.
Ça, c'est carré au Rwanda en général.
Ouais, je sais. Non, mais en fait, ils ont beaucoup travaillé.
C'est surprenant qu'ils n'aient pas de stade quand même.
Parce qu'ils ont beaucoup plus investi sur les sports qui sont les plus populaires. Donc, premièrement, le cyclisme, ils ont beaucoup investi ces dernières années. Ils sont passés
Ils ont
investi sur les terrains de basket parce qu'ils ont repris le partenariat avec la NBA. Et là, ils sont en train de travailler notamment sur un nouveau stade. Je pense que d'ici 2 ans, il a fait un partenariat avec les Turcs également pour pouvoir avoir un aussi beau stade qu'au Sénégal. Et c'est un choix stratégique. Je pense que Macky Sall et Kagame s'entendent plutôt bien. C'est la raison pour laquelle ils sont venus jouer au Sénégal. Mais stratégiquement, ça a été, je pense, une erreur parce qu'on a vu que le stade était hostile au Rwandais. Ils ont joué quasiment à l'extérieur. Et sur ce penalty-là, c'est vrai que si tu joues au Rwanda ou dans un autre pays qui est plutôt neutre, peut-être qu'ils ne sifflent pas l'arbitre.
L'arbitre, assurément, il n'y a même pas à discuter.
l'arbitre congolais, c'est vrai. Mais ils étaient fatigués, ils ont fait un superbe match quand même défensivement. Ils ont réussi à contenir les Sénégalais qui ont été brouillons dans ce match-là, beaucoup plus brouillons que le match d'avant. Et encore une fois, je disais, heureusement qu'il y a Sadio Mané, parce que c'est vrai qu'il était fatigué dans ce deuxième match. Il a multiplié les courses, ça se voyait, il y avait beaucoup d'approximations, notamment dans les 16 mètres. Et à la fin, il a la lucidité pour mettre ce
match. Ils sont là, les Sénégalais, quand même.
Ils sont là.
Ils sont le titre. Ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Toutes les échéances là depuis 6 mois, on les attend, les attend. Même si ça n'est pas toujours flamboyant, à l'arrivée, l'essentiel est fait.
Et puis, Aliou Cissé a mis un petit peu de sang frais. Ça permet de revoir Sabali comme ça plus régulièrement. Balot Touré, bon, qui a un petit peu de difficulté, le pauvre. Donc lui, il est un peu plus en difficulté.
Mais Matarsar également, qui a fait le super match.
Comment il s'appelle, le Marseillais, Zut,
Bombadieng.
Pas Bombadieng, au milieu de terrain.
Oh zut, oh là,
incroyable. Marseillais.
Non, le milieu de terrain, Marseillais.
Oh zut, là j'ai un trou. Incroyable ce qui m'arrive. Oh là là, je suis désolé pour nos amis sénégalais.
Gay?
Non, mais Gay. Voilà. Gay au milieu. Mais Gay, après, lui, il avait enchaîné de quelques matchs. Pas Gay?
Si.
Gay a été bon au milieu. Il a notamment sur le premier match. Non, pas Gay. Vrai. Gay a été sur le banc de touche le premier match.
Il n'a pas joué le premier match. Gay a joué le deuxième match. Il a remplacé.
Mais c'est pas grave. Mais ce qui est certain aussi dans ce match-là, c'est qu'on a vu aussi quand même les grandes difficultés sénégalaises dans le jeu. C'est vrai qu'on parlait, on faisait un parallèle avec l'Algérie qui a plutôt dans le jeu, c'est un peu plus fluide, etc. Même si c'est vrai que ça marque pas et ça jouait des malchances sur les derniers matchs. Mais ce qui est certain, c'est que là, Aliou Cissé, on va commencer, indépendamment du titre évidemment gagné en Coupe d'Afrique des Nations, on va commencer à se demander quelles sont ses idées, notamment pour faire progresser cette équipe et apporter un peu plus de jeu. Parce qu'on a vu contre le Rwanda, c'était d'une pauvreté incroyable. On va peut-être mettre la fatigue en avant, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est d'une pauvreté aussi dans le jeu, du style. Il faut quelque chose de nouveau et on peut commencer à se poser des questions.
Je te trouve dur quand même, parce que là, on parle d'une équipe qui est...
On en reparlera. Bon. Autre équipe à 6 points, l'Algérie, vous y faisiez allusion. Alors bon, c'est contre l'Ouganda, 2-0 en Tanzanie, 2-0, mais l'Algérie avait besoin de se remettre dans le sens de la marche. Elle répond présent ce début de course à cette CAN, plutôt rassurant, même si les adversaires n'étaient pas des...
Mais c'était Gay, on l'a dit Gay.
Parce que je pensais que tu parlais d'Idrissa Gay.
Pas Gay.
Non, Marseille.
Je crois que vous êtes...
En fait, Tavel, non.
C'était important de revenir là-dessus. Pas de Gay.
Et on rappelle que Hervé, c'est un perfectionniste.
Allez, l'Algérie, juste un petit mot rapide sur nos amis algériens qui se remettent dans le bon sens.
Sans Mahrez, ils ont réussi à faire deux perfs, et surtout avec une sorte de revue d'effectifs. Il a changé presque la moitié de son équipe par rapport à ce qu'était à la CAN notamment. Il a été un peu plus modeste en conférence de presse, notamment Belmadi. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ils ont montré les crocs, ils ont été costauds.
Et puis ils ont réussi à marquer sur
le premier match. Il y a quelque chose. En tout cas, ils sont en regain de forme et ils savent qu'ils ont besoin de se racheter.
Dans un groupe F où ils n'ont pas grand chose à craindre, sauf le respect qu'on doit bien sûr au Niger, à la Tanzanie et à l'Ouganda. On imagine mal quand même le séisme que serait une Algérie qui ne serait pas dans les deux.
Ils n'ont pas joué la Tanzanie en Tanzanie en plus. Il ne faut pas l'oublier.
Un mot de notre ami Jean-Louis Gasset et de la Côte d'Ivoire avant d'accélérer, de passer à autre chose. Jean-Louis Gasset, je vous propose qu'on l'écoute. La Côte d'Ivoire, en gros, a disputé ses deux premiers matchs sous l'ère Gasset avec une victoire 3-1 contre la Zambie. Bon, très bien pour démarrer. Match nul au Lesotho 0-0 qui laisse un peu plus perplexe. On écoute Jean-Louis.
On a joué contre une équipe qui était très bien organisée. On a toujours tenté jusqu'à la dernière minute. Mais malheureusement, on a manqué de puissance et d'efficacité. Dans les deux matchs, j'ai vu tout l'effectif, tous les joueurs qui étaient disponibles. Beaucoup de joueurs majeurs étaient absents à ce stage. Mais là, je me fais une idée sur l'effectif qui est en place. Donc, on a manqué de présence, on a bien préparé le jeu, on est passé par les côtés, on a centré. On savait qu'on allait jouer contre une défense qui allait jouer peut-être à 5. Mais on a manqué de force devant le but et d'efficacité.
On rappelle que les Ivoiriens sont déjà qualifiés dans un groupe où, de toute façon, ça n'aurait a priori pas dû être compliqué. Hein, Zambie, Comores, Lesotho, 30 secondes chacun pour nous parler de ces deux premiers matchs de Papa Gasset avec les éléphants.
Oui, ben, l'important pour lui, c'est de faire une revue d'effectifs. Hein, c'est qu'il a pu voir pas mal de joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'absents, hein, faut pas l'oublier. Hein, on avait vu qu'Essi était parti pour une naissance, ben, il n'était pas là. Là, il n'a pas joué Calaire sur le dernier match. En tout cas, il a vu ça, il en a vu pas mal. Ça lui permet d'avoir une idée un petit peu de son effectif, et c'est ce qu'on lui demande aujourd'hui, parce qu'on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'Afrique. Il débute, il découvre, donc c'est pas simple. Hein. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui rentre dans un championnat de France, on dit oh, ben, finalement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Et là, il va découvrir que même jouer le Lesotho, qui est une équipe qui n'est pas grand-chose, hein, et ben, c'est pas aussi simple que ça. Ils ont eu 85% de possession de balle quand même. Pour le résultat, ils ont fait 0-0.
86%. Et c'est 16 tirs à 0. Enfin,
ouais, mais c'est souvent difficile d'entamer, surtout une CAM à domicile. Moi, j'ai vu avec Ganadro, c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai que dans l'appréhension, c'est vrai que là, dans ce format-là, où il joue le match presque officiel, c'est plutôt intéressant. Mais ce qui est bien dans son staff, c'est qu'il a eu l'intelligence finalement de ramener Emers Faye avec lui. Ça va l'aider un tout petit peu à comprendre les spécificités du football ivoirien, de plus en plus exigeant, le public notamment. Et puis derrière, ils ont envie de faire une grosse CAN. Mais Gassé, c'est quelqu'un, je pense, qui peut aider à bonifier notamment
le football. Il connaît ce que c'est que le jeu maintenant, à lui de connaître
ce que ça va donner.
À suivre, comme on suivra le groupe D le plus équilibré, Éthiopie, Malawi, Guinée, Égypte, qui fait un début catastrophique. Ces quatre équipes ont toutes 3 points, donc toutes une défaite et une victoire.
Et on attend beaucoup secondes. De la Guinée. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner cette Guinée de Kabadiawara. On sent qu'il y a quelque chose, un souffle nouveau. Tous les apports des jeunes, des Guirassy, des Conte.
Mais t'as vu la première victoire, ce que ça a donné comme
l'ambiance.
C'était une ambiance incroyable.
Un but de Nabi magnifique, ouais. Fin de match.
À suivre donc.
Ils sont assoiffés de victoire, les Guinéens. Ils ont envie de gagner. Ouais.
Comme on suivra le Burkina Faso, qui fait partie des équipes qui compte 2 victoires en 2 matchs et qui sont bien parties.
En plus, parce qu'ils vivent des moments difficiles quand même.
Ah oui, on pense toujours à nos amis étalons du Burkina Faso et tous ceux qui les entourent. Et au peuple burkinabé dans son ensemble, qu'il soit du côté de Bobo, de Ouaga, de Fadan Gouya, de Waïgouya, partout.
Courage.
Allez,
courage,
un gros bisou. Et puis, heureusement, le foot est là pour vous redonner le moral si c'est possible. Allez, on va changer de. On revient en Europe.
Ce qu'a montré le Benfica, c'était pas très bon quand même. Hein. Après, ils ont un super attaquant,
un
Darwin Núñez, attaquant uruguayen, dont on parle pas mal du côté d'Angleterre.
Et oui. C'était Bruno Constant, c'était il y a quelques semaines, et Bruno Constant nous annonçait ce Bruno Constant.
Ah, vraiment, c'est beau ça.
Il avait cette boule de cristal là, et puis il voyait un joueur avec un petit chignon tourner dedans, c'était Darwin Núñez, qui s'est donc engagé, cet officiel, pour 100 millions d'euros, enfin 75 donc, plus 25 de bonus, hein. Pour ouais. Aller remplacer... A priori, Sadio Mané,
surtout pour essayer de supplier Bobby Firmino, parce que ça a été un peu plus compliqué
Sadio
pour Firmino.
Qu'on nous dit partant pour le Bayern Munich. Ouais. Voilà, en tout cas, c'est un attaquant qui vient pour remplacer un attaquant. C'est après, ça. On verra bien
Sadio
comment il
point,
se place. Sadio qui devrait donc partir pour 40 millions du côté du Bayern, et pour 3 ans, ça n'est pas encore officiel, mais ça se dit.
Et le peuple sénégalais avec les partes.
Oui. Et Darwin Núñez, lui, arrive, 23 ans, 2 saisons avec le Benfica, la première moyenne, la deuxième extraordinaire. 47 buts, 16 passes décisives, en tout en 84 matchs avec le Benfica. Bonne pioche, d'après vous ?
Ah oui, bah pour l'instant, ce qu'il a montré sur l'année passée, c'était assez incroyable. Hein. Et puis, il est grand. Alors, lui, pour le coup, il peut caler facilement les ballons. C'est un joueur qui peut apporter peut-être beaucoup à Liverpool. Alors, je ne sais pas s'il apportera autant que Sadio Mané, parce que c'est encore autre chose, vu ce que lui a fait ces dernières années. C'est un autre profil. Autre profil de joueur qui est plus dans le côté attaquant de pointe que Sadio, qui a joué là ces derniers temps, parce que ça manquait de monde.
10 secondes, Marc.
Il récupère un vrai numéro 9 qui, lui, va peser sur la défense. Donc, ça veut dire que sur les côtés, avec Luis Diaz et de l'autre côté, il va falloir avoir 2 joueurs, Salah, qui vont faire la différence. Mais il va créer des brèches parce qu'il fait presque un 90, mais c'est un sacré joueur. C'est vraiment un très, très bon joueur. Et quand ils achètent un genre de joueur à 22-23 ans, c'est pour l'avenir.
Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais on voulait vous le signaler parce qu'on sait que vous aimez bien tous ces chiffres. Et puis, quand il s'agit de remplacer Sadio Mané, ça compte. À demain pour Radio Foot. Foot Média.